Profil PM. Opinion.
Desjardins sera très honoré de participer aux réflexions qu'il aura participé. Je crois qu'il faut mettre les parties prenantes au Canada qui travaillent dans le domaine de la donnée et puis de réfléchir à sur comment on veut faire évoluer. Parfois, ça peut être la réglementation. Je pense que le statu quo n'est pas une option.
Voici Fred Savard.
Alors, mon cher...
Allô, Daniel!
Comment tu vas? Attends un peu. Attends, je vais te faire jouer quelque chose de merveilleux. Tu vas adorer ça.
Je me fous du monde entier quand Frédéric...
Et voilà. Il a écrit ça pour toi parce qu'il savait que t'allais venir faire une chronique un jour à Cogeco. C'est un prophète, tu comprends, Claude Léveillé.
Oui.
Alors,
il était éveillé.
Mon cher Frédéric Savard,
oui.
De quoi tu viens nous parler?
Ben, on a entendu juste avant Guy Cormier, président PDG de... PDG, oui. De,
PDG, président directeur général. Oui.
De Desjardins, qui était convoqué au comité permanent de la sécurité publique nationale. Hein, c'est pas de la boîte. Pour avoir... En fait, le gouvernement voulait des explications sur ce qui s'est passé. Bon, on le sait bien, là, les 2,9 millions de membres qui ont été spoliés de leur identité. Et bon, là, j'ai lu ce matin, il paraît que Guy Cormier lui-même aurait eu un vol de son identité.
Oui, oui, oui.
Je peux-tu dire que ça va... Là, ça va avancer, les affaires, là? Et, hein?
Écoute, il y a toujours la première partie de la game. C'est pas moi, c'est pas de ma faute.
Oui,
on se renvoie là-bas. Après ça, on veut faire quelque chose.
Oui.
Donc, vu qu'on veut être très actif rapidement, on va faire un comité consultatif multipartite. Après ça, il va y avoir un comité d'experts. Après ça, il va y avoir on va consulter le peuple. Puis finalement, en 2074, on va peut-être accoucher de quoi?
Peut-être.
Un peu trop tard, peut-être. Et si c'est pas tabletté, ça finit souvent comme ça.
Bon, moi, j'ai la chance de pas être membre chez Desjardins, donc j'ai pas eu cette frayeur. Moi, on m'a volé mon identité il y a 3 ans, d'une autre façon. Mais tu sais, c'est vraiment répandu, là, cette histoire-là. C'est...
Non, il y en a partout.
Je veux pas l'amoindrir, mais je pense, en tout cas, je suis pas un expert, mais j'ai l'impression que Desjardins a quand même réagi, en tout cas dernièrement, en offrant à vie la protection contre la fraude d'Equifax, tout ça. Mais en même temps, Equifax a été aussi victime d'un vol d'identité. Alors, c'est comme le serpent qui mange sa queue. Sauf que Guy Cormier soulève un point intéressant, c'est-à-dire qu'il lance la balle aux autorités, au gouvernement, pour faire quelque chose, parce qu'il n'y a aucune loi fédérale ni provinciale qui oblige les entreprises et les institutions à protéger adéquatement les renseignements personnels. C'est quand même fou quand on pense à ça. Il n'y a aucune loi. C'est vraiment ce gouvernement et les autres avant se fie sur la bonne foi des entreprises et des individus.
Ça fait 18 ans qu'il n'y a rien fait, là.
Oui.
Alors, ce qu'on pensait, comme ça, dans les airs, c'était peut-être une base de données nationale que le gouvernement contrôlerait le plus serré possible. Et les entreprises, au lieu de nous demander à nous nos numéros d'assurance sociale, etc., devraient consulter cette base-là qu'on essaierait
de sécuriser. Mais est-ce que tu fais vraiment confiance au gouvernement pour gérer une base de données?
Va falloir faire confiance à quelqu'un.
Oui.
Là, le problème, c'est que les entreprises n'ont pas toutes les mêmes critères. Puis même, elles peuvent... C'est en cachette, ça se passe. Ça se ramasse sur le dark web. Puis, fait qu'ils sont pas... ils vont suivre du mieux qu'ils peuvent, mais j'ai des doutes, moi.
On a vraiment, comme tu disais, beaucoup de retard. Aux États-Unis, Facebook a été condamné à verser 5 milliards à Cambridge. En fait, avec l'histoire de Cambridge Analytica, ils avaient brisé leur promesse de ne pas vendre les données des utilisateurs. British Airways, 300 millions, en fait, ça doit être des livres sterling, d'amende après le vol de renseignements de 240 000 clients. Ça, c'est des lois dans d'autres pays, visiblement.
Oui, mais nous, on a 10 fois plus. Imagines-tu, ça serait 3 milliards pour Desjardins. Oui.
Sauf qu'en fouillant un peu, puis ça, je me rappelais de ça, puis je suis allé refaire quelques recherches. On se demande pourquoi le gouvernement est aussi laxiste. Et là, on s'est rendu compte, en 2017, Philippe-Vincent Foisy, journaliste à Radio-Canada, avait fait une enquête sur les rapports, les liens entre les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, et le gouvernement de Justin Trudeau. Et il avait trouvé qu'il y avait eu 99 rapports de communication entre Amazon et le gouvernement, 37 avec Google, 35 avec Microsoft, 17 avec Netflix. Donc, des rapports de communication, ça veut juste dire qu'il y a eu des rencontres, donc enregistrement de lobbyistes, mais ces gens-là ont été très actifs près du gouvernement pour, on s'en doute, assouplir les lois pour que ces entreprises-là puissent faire à peu près ce qu'ils veulent.
Jamais du lobbyiste pour rien.
Leslie Church, une ancienne VP chez Google, a été chef de cabinet de Mélanie Joly. Je ne sais pas si elle est encore aujourd'hui, mais elle l'a été en 2017. Et en comparaison, la DISC, un rapport de communication avec le gouvernement.
Pourquoi je suis pas surpris?
Fait que, tu sais, ces gens-là mettent la pression, veulent le moins de réglementation possible, le moins de lois possible pour faire les affaires, supposément toujours dans cette idée d'économie de partage, puis de jouer sur la modernité. Les gouvernements ont bien peur d'être à la remorque.
De ruissellement aussi.
De ruissellement, oui, parce que souvent, on peut penser à Jeff Bezos, entre autres, des gens qui sont libertariens. Oui, qui sont libertariens, qui ne croient pas à l'autorité des gouvernements, des espèces d'anarchisme avec du budget, je pense qu'on pourrait dire ça, des libertariens. Donc, je trouve que Guy Cormier pose de bonnes questions. Aussi, revoir l'idée de l'identité numérique, parce que là, le numéro d'assurance sociale, on en a parlé ici, c'est pas une bonne idée de le changer, parce que que c'est notre premier réflexe. Moi, je me rappelle quand ça m'était arrivé, je me disais, ben voyons donc, ils ont mon numéro d'assurance sociale, il faut le changer, mais là, on va devoir surveiller.
As-tu vu qu'est-ce que l'Estonie a fait?
Qui?
L'Estonie.
Non?
Non, c'est un pays.
OK.
Mais eux autres, ils ont instauré une carte aussi perfectionnée, technologiquement parlant, que, par exemple, notre argent. Alors, notre argent, c'est toujours une course avec les faussaires. Ils réussissent à imiter. Oui. On change l'argent. On rend ça plus compliqué. C'est plus difficile à imiter pendant quelques années. Après ça, ils réussissent. Ils font la même chose avec leur carte d'identification. Donc, c'est pas une vieille carte qui date de 1964 avec 9 numéros dessus. Oui. C'est quelque chose de beaucoup plus dur à contourner. Puis ça a l'air d'avoir des résultats, ça.
Ah, mais peut-être que...
Et là, c'est géré de façon nationale, c'est pas les compagnies.
Mais peut-être que le chef de cabinet d'un des ministres de l'Estonie n'est pas un ancien de Google, et peut-être que ça aide aussi à mettre de l'avant des choses comme ça. Autre sujet qui est quand même inquiétant, je trouve, c'est la normalisation d'un discours raciste. Ça fait longtemps qu'on... Depuis que Trump est là, en fait, on remarque ce genre de commentaires. En fait, cet état d'esprit qui vient de Trump. Et là, il y a un texte dans le... The Atlantic, qui parlait comment, en fait, le dernier tweet de Trump où il disait à 4 femmes démocrates de retourner dans leur pays s'ils sont pas contentes. Évidemment, il y en a 3 sur 4 là-dessus qui sont nées aux États-Unis. Mais comment ce genre de tweet...
L'autre est arrivé à 10 ans aussi.
Oui, c'est ça. Bon. Donc, mais comment ce genre de tweet-là, ce genre d'attitude-là normalise le racisme? Il disait, en fait, ça va plus loin que ça. C'est que Trump, ce qu'il fait en agissant comme ça, c'est qu'il normalise l'idée qu'un vrai Américain, c'est quelqu'un qui est blanc.
Complètement. Puis aux autres, retournez dans votre pays.
Ouais. C'est quand même incroyable.
Je pourrais dire ça aux Premières Nations, juste essayer, voir.
Bonne chance. Mais quand on sait que les États-Unis ont été bâtis grâce à l'immigration, c'est le rêve américain qui s'effrite de plus en plus, mais cette idée-là que tout est possible...
C'est un rêve d'immigration.
C'est un rêve d'immigration. Donald Trump lui-même, sa famille, les Trump, c'est des immigrants de l'Allemagne.
Oui, puis...
Et on sait qu'en Allemagne, la blanchitude, ils connaissent ça.
C'est 74 épouses aussi.
Ça, j'irai pas là.
Eh bien, mais c'est parfait, mais c'est parce qu'il l'applique à une place puis il l'applique pas à l'autre.
Ouais,
on voit l'incohérence puis on voit que c'est pour choquer.
Ouais. Évidemment, notre premier ministre Justin Trudeau a eu une réaction ferme au propos de Donald Trump. Il a dit « C'est pas comme ça, nous, que nous voyons les choses au Canada. Un Canadien est un Canadien », sans jamais nommer Donald Trump. Sauf que ce discours-là, moi, j'ai l'impression...
Quelle violence dans ses propos.
Il était fâché. Ce genre de discours-là est quand même contagieux d'une certaine façon, parce que là, on apprenait cette semaine la construction d'une prison à Laval pour les migrants. Mais on dit pas une prison, là, on dit, en fait, c'est un centre de détention. Et le gouvernement, c'est drôle parce qu'on n'entend pas parler de ça du tout. Tu sais, on est devant le fait accompli. C'est une firme de Val-David qui va construire ça.
Privé en plus, donc, il y a une colonne de profit qu'il va falloir respecter.
50 millions que le gouvernement accorde. Et là, le gouvernement dit, la raison officielle, c'est ce nouveau bâtiment va offrir des conditions de vie plus acceptables aux étrangers qui sont détenus,
on
notamment
va se mettre
aux
normes américaines.
Ben, j'espère que non, parce qu'on sait ce qui se passe présentement. De plus en plus d'observateurs comparent carrément les camps de détention à des camps de concentration. Là, il faut faire attention avec toute comparaison avec la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que c'est quand même inquiétant.
C'est pas des camps d'extermination. Non. C'est des camps de concentration. Voilà. Puis on en a déjà eu ici au Canada.
Tout à fait. Dans les Japonais, entre autres.
Le premier ministre Harper a dû s'excuser à la communauté japonaise. On en a eu ici au Québec pour la communauté italienne.
Oui, tout à fait.
Durant la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu faire des excuses aussi. Donc, on l'a reconnu, ça.
Oui.
Alors, on parle de camp de concentration, ça ne veut pas dire camp d'extermination, mais ça veut dire...
Mais ça laisse...
Ça veut dire que les gens qui n'ont pas commis de crimes sont quand même retenus contre leur gré, puis après ça...
Considérés comme des criminels, d'une certaine façon. Et là, moi, je trouve que c'est ça que j'aime pas.
C'est des conditions de détention de criminels, pour commencer.
Oui. Évidemment, je sais qu'il y a quand même... Il faut réfléchir, il faut aussi faire attention que ces réfugiés-là ne s'évadent pas dans la nature parce qu'ils n'arrivent pas tous avec de bonnes intentions. On est quand même conscient de ça. Mm-hmm. Sauf que de construire un centre d'intention... Puis là, on apprenait aussi que les agents frontaliers, les agents des douanes, en fait, qui vont traiter ces gens-là, j'ai vu la nouvelle passée ce week-end, vont être armés, vont avoir un équipement vraiment gilet pare-balles. Ils vont être armés. Donc on induit cette idée-là que ces gens-là sont naturellement menaçants et faut les détenir et il faut les contenir
par
de
le
toutes les façons.
On passe un message.
Ouais. Et cette semaine aussi, en fait, hier soir, je voyais passer ce reportage. Et là, c'est ailleurs, c'est au Luxembourg, mais quand même, je ne sais pas si tu as vu à RTL, à Radio-Télévision Luxembourg.
Oh, quelle horreur!
Un reportage sur une touriste belge, Charlotte, qui avait réservé une chambre à Djerba, en Tunisie. Puis Charlotte, elle est vraiment pas contente parce qu'elle a découvert qu'il y avait des cadavres qui était sur la plage.
Elle s'en plaint, mais elle se plaint pas qu'il y ait des cadavres, que ce soit atroce. Elle se plaint de son confort, qui est dérangé par les cadavres.
Alors, Charlotte a demandé... Elle a presque gâché ses vacances, le reportage le dit, parce qu'elle a demandé à l'hôtel de changer de chambre. Et ouf, l'hôtel a dit oui. Mais il faut dire que Charlotte ne l'a pas facile, contrairement aux migrants, parce qu'elle est assistante dentaire et elle n'aime pas beaucoup son travail. Alors, elle avait besoin d'une semaine pour bien décompresser.
Pauvre Charlotte.
Pauvre Charlotte. Mais ça aussi, je trouve que ça participe à cette normalisation que ces gens-là, on les déshumanise, en fait. C'est ça qu'on fait. Je trouve que c'est une espèce de... C'est très insidieux, puis ça m'inquiète, en fait, que collectivement, on manque d'empathie pour ces gens-là. Et moi, je vous le dis, Donald Trump a fait des petites blagues récemment à l'effet qu'il ferait peut-être un troisième mandat. Si jamais il est élu à la prochaine élection, il va dire « Moi, je vais peut-être me rendre... »
C'est excessivement menaçant, ça.
Et je serais même pas étonné qu'en cas de défaite, même à la prochaine, il décide de rester, qui accuse les grands médias libéraux d'avoir corrompu les électeurs, d'avoir joué avec les chiffres. Je serais même pas étonnant qu'il reste en place. Je vous le dis, là, aujourd'hui, prédiction. Mais il y a quelque chose de... Je sais qu'il y a des gens qui font, ben non, il y a toutes sortes de mécanismes aux États-Unis, l'impeachment, mais visiblement, jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas.
Ça ne fonctionne pas, puis le mécanisme des grands électeurs qui lui a permis de gagner les élections avec moins de votes que Hillary Clinton, ça a été mis en place par les pères fondateurs au cas où il y aurait un fou qui prendrait le contrôle du gouvernement.
Et là, pouf,
ça donne exactement l'inverse.
Ce fou est là. Et suggestion de lecture, c'est pas du Daniel Steele, mais c'est Philip Roth, le complot contre l'Amérique, un roman qui a été écrit il y a à peu près 7-8 ans, je crois, mais qui décrit exactement ce qui se passe avec Trump, comment les États-Unis ont, là je dis pas que c'est ça qui arrive, mais dans le roman, comment les États-Unis versent tranquillement pas vite dans une certaine dictature, carrément. Et il y a plein de parallèles qu'on peut faire avec l'élection de Trump. Philip Roth, suggestion de lecture, un petit peu, peut-être pointu, mais l'été, on n'est pas obligé de lire juste de la légèreté, Daniel.
Il faut doser l'été, c'est tout. C'est tout. Mais avec,
pendant qu'il pleut, entre autres.
Je me fous du monde entier.
Je me fous du monde entier quand Frédéric
fait ses chroniques.
OK, je m'en vais.
Merci beaucoup, mon Fred. À demain. Dans un instant, Jordan Dupuis nous raconte ce qui s'est passé à l'after party des Backstreet Boys. Il a dû se faire aller là, mon Jordan, d'avoir des poches entour des yeux jusqu'entour des aisselles. À tout de suite.